Bonjour à tous. C'est les vacances. En fait, c'est le début de mon histoire. C'est pas. Ma femme me dit que je fais tout le temps trop de pauses entre les phrases. Ça finit par me jouer des tours. C'est pas encore les vacances aujourd'hui. Mais dans mon histoire, c'est les vacances. Et on vient de finir un bon barbecue. Il fait beau, il fait chaud. Je suis encore à Bordeaux et avec toute l'équipe de la cafétéria de l'école des Beaux-Arts, on a fermé à clé la cafétéria. Il n'y a que l'équipe qui est à l'intérieur. Et même s'il fait chaud dehors, à l'intérieur, il fait bon. On profite du grand écran. On a mis des chaises comme ça en arc de cercle pour à profiter du spectacle et tous bien y voir. Tout le monde est confiant. Tout le monde est joyeux. Et l'ambiance, elle est électrique. Mais à la 107e minute, c'est le drame. Zinedine Zidane, notre Zizou, allonge Materazzi d'un coup de tête dans le plexus. Carton rouge. Zidane sort. Et nous, dans la cafétéria, on est tous sous le choc. On a tous la tête dans les mains, on se dit « Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Et quelques minutes plus tard, la France perd la finale de la Coupe du Monde 2006, après les tirs au but. Dans les semaines qui suivent, beaucoup d'articles, beaucoup de débats, beaucoup de sondages, beaucoup de discussions, à l'école, au travail. Et il y a trois camps qui divisent la France. Ceux qui auraient réagi pareil que Zizou, ceux qui condamnent fermement ce qu'il a fait, et ceux qui n'auraient peut-être pas fait pareil, mais qui le comprennent quand même. Les rumeurs vont bon train, les pronostics aussi, et quelques semaines après, on apprend que c'est en réaction à des insultes que le geste a été porté. Comment réagir face aux insultes? Comment réagir à ceux qui nous font du mal? Comment réagir face à l'injustice? C'est ce qu'on va voir ce matin ensemble. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, et je lirai à partir du verset 8. Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter une bénédiction. Si, en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de la ruse, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'ils cherchent la paix et la poursuivent. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Qui donc pourra vous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Et ne soyez pas troublés, mais dans vos cœurs, consacrez le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que, sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans le Christ soient pris de honte. Mieux vaut, en effet, souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. C'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison, à ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois lorsque la patience de Dieu attendait, au jour où Noé bâtissait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, 8, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent. Baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience, par la résurrection de Jésus-Christ, qui s'en est allé au ciel, qui est à la droite de Dieu, et à qui anges, autorité et puissance ont été soumis. Ce matin, je vous propose de distinguer deux parties dans le texte. La première, ce sera « Bénir ceux qui nous font du mal », les versets 8 à 12, et « Souffrir en faisant le bien », les versets 13 à 22. « Bénir ceux qui nous font du mal ». Dans notre Bible, dans notre lecture, dans la prédication, il y a des versets qui sont faciles à comprendre, mais qui sont difficiles à vivre. C'est particulièrement le cas avec le verset 9 de ce matin. « Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte, au contraire, bénissez. » C'est dur parce que notre première réaction quand on nous agresse, quand on nous insulte, quand on nous fait du mal, c'est de nous défendre. Pourquoi ? Parce qu'on a été câblé pour la justice. C'est la manière dont Dieu nous a fait. Notre Dieu est un Dieu de justice et nous nous sommes faits pour vivre la justice. Et quelque part, c'est normal d'être révolté contre l'injustice. Mais quand cette injustice nous touche, c'est encore pire. Parce qu'à la douleur de l'attaque s'ajoute la colère de l'injustice. Et Dieu, il nous demande non seulement de supporter l'injustice, mais de bénir ceux qui nous font du mal. Et c'est une chose de supporter l'injustice, mais de là, bénir ceux qui nous font du mal, bénir ceux qui nous insultent, bénir ceux qui nous calomnient, bénir ceux qui répandent des fausses rumeurs, c'est impossible. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de dire du bien et de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Mais pourquoi ? Et encore plus, comment ? Comment on peut arriver à ça ? Comment on peut arriver à quelque chose d'aussi pas naturel que ça ? Dieu nous donne les raisons et les moyens de le faire. C'est ce qu'on va voir maintenant. Le verset 9 continue, il dit « Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » C'est à cela que vous avez été appelés. Nous avons été appelés à cela. Ça fait partie de notre vocation. Et déjà au passage précédent, Pierre avait déjà utilisé cet argument. Regardez avec moi, dans chapitre 2, les versets 20-21. Il parlait aux serviteurs et il parlait de la manière dont les serviteurs devaient être soumis à leur maître, même les mauvais. Et il leur avait dit, « Quelle gloire en effet ! Y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché ? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés. Parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Pierre nous répète ici et là dans sa lettre qu'on a été appelé à cela, sous-entendu, on a été appelé à suivre l'exemple de Christ, à marcher dans ses pas. Et notre appel à suivre Christ, c'est un appel à vivre l'injustice et à la supporter comme lui a vécu l'injustice et l'a supportée. C'est un appel à bénir ceux qui nous font du mal comme lui a béni ceux qui lui faisaient du mal. En fait, notre conduite doit refléter Dieu. Nous sommes les fils de notre Père céleste. On l'avait déjà dit plus tôt dans Pierre. Normalement, quand on voit un fils, on voit à peu près derrière son père. Et on voit deux choses. La première manière dont Dieu bénit ses ennemis, c'est par sa grâce générale. Et probablement, ici, Pierre, comme à d'autres endroits de sa lettre, il fait référence au sermon sur la montagne. Il y a ce passage dans le chapitre 5 où Jésus dit déjà « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Cette chose impossible dont parle Pierre ici ce matin, Jésus avait déjà dit la même chose dans le sermon sur la montagne. Et il avait dit pourquoi ? Pourquoi il disait cela ? Pour ressembler à notre Père céleste qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Ressembler à notre Père céleste qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Sous-entendu, ressembler à notre Père céleste qui fait du bien en donnant les récoltes aux bons comme aux méchants, qui donne la vie à tous, bons et méchants. Dieu est bon envers tous et nous devons l'imiter. Et Jésus continue et dit « Aimez ceux qui nous font du bien, aimez ceux qui nous aiment, c'est faire comme tout le monde. Mais aimer ceux qui nous font du mal, c'est faire comme Dieu. Aimer ceux qui nous font du bien, c'est faire comme tout le monde. Mais aimer ceux qui nous font du mal, c'est faire comme Dieu. » Et Jésus savait de quoi il parlait. On lit ça au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu et quelques chapitres plus loin, Jésus sera crucifié. Jésus mourra, lui juste, pour des injustes. Et c'est la deuxième facette, c'est que Dieu bénit ses ennemis par sa grâce spéciale. Il a prouvé son amour pour nous. Christ est mort alors que nous étions encore pécheurs. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions bons. Nous étions ses ennemis, nous dit sa parole. Nous étions ennemis de Dieu, nous étions des enfants de colère, destinés à la colère. Et pourtant, Dieu a choisi de nous sauver par amour, dans sa grande miséricorde, dans sa grâce. Et c'est parce que nous sommes au bénéfice de cette grâce que Jésus et que Pierre peuvent nous appeler à faire grâce à ceux qui nous font du mal. Comme Dieu lui-même nous a fait grâce alors que nous étions ses ennemis. Et non seulement Dieu, il nous donne l'exemple, il nous donne aussi les raisons de bénir ceux qui nous font du mal, mais il nous donne aussi la capacité de le faire. C'est Dieu qui nous rend capable de faire ce qu'il nous demande. Et quand il nous demande quelque chose, Dieu n'est pas en train de nous tester en disant « Tiens, on va voir si tu y arrives ». Il nous demande quelque chose et en même temps, il nous rend capable de l'accomplir. Dieu nous renouvelle par son esprit. Pierre en a déjà parlé. Au chapitre 1, il dit « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères par le sang précieux de Christ. » Au chapitre 2, verset 24, il dit « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. » Mort au péché, nous vivons pour la justice. Nous sommes morts au péché et vivants pour la justice. Et c'est vrai que aimer nos ennemis est impossible à ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais Pierre nous rappelle, vous avez une nouvelle vie qui vous a été communiquée par Dieu. Ne faites plus comme vous faisiez avant, parce que vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Vous êtes transformé. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et cet Esprit de Dieu vous rend capable de faire ce que Dieu vous demande. Et on peut avoir confiance en Dieu que quand il nous demande quelque chose, il nous rend capable de l'accomplir. Il est possible d'aimer nos ennemis. Mais possible, ça ne veut pas dire facile. Il ne faudrait pas que... Ce serait difficile de confondre les deux. Surtout quand on doit le faire. Mais quand on le dit, ce serait possible. Et Pierre nous donne des raisons supplémentaires de bénir nos ennemis. Quand on vit l'injustice, quand je vis l'injustice, on a peut-être l'impression parfois que Dieu n'est pas là. On a peut-être parfois l'impression que Dieu nous a abandonnés. On a parfois peut-être l'impression qu'il s'est détourné de nous. Mais il ne s'est pas détourné de nous, de la même manière qu'il ne s'est pas détourné de son fils quand il était sur la croix. Et Pierre cite le psaume 34 qu'on a lu tout à l'heure avec Guillaume. À nouveau, il avait déjà cité, c'est un psaume qu'il aime bien. Et dans ce psaume, c'est David qui parle de la délivrance de Dieu alors qu'il était chassé. Alors qu'il était dans une sorte de mini-exil. Et qu'il était entouré de ceux qui voulaient lui faire du mal. Et à la fin du psaume, il proclame « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. » Et au milieu de la détresse, alors que David est pourchassé par ses ennemis, qu'il a dû s'enfuir, il aurait pu penser que Dieu l'a abandonné. Il aurait pu douter de la présence de Dieu. Il aurait pu douter de l'intervention de Dieu. Mais la confiance dans les promesses de Dieu. Et il s'accroche à ce qu'il sait. Et il comprend ce qu'il vit à la lumière de la parole et des promesses de Dieu. Et ce qui l'aide à tenir, c'est qu'il sait qu'au-delà de ce qu'il voit et au-delà de ce qu'il vit, il peut s'accrocher à ce que Dieu dit. Il a confiance que Dieu le délivrera. Et au lieu de prendre cette situation comme un laisser-passer pour répondre par la violence et par le mal, il veut s'éloigner du mal et de la violence parce qu'il sait que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Et c'est précisément ce passage-là que Pierre cite dans notre passage ce matin. Pourquoi on peut avoir confiance quand on vit l'injustice? Comment on peut ressembler et imiter Dieu quand on nous fait du mal? Parce qu'on sait que Dieu entend nos prières, parce qu'on sait que Dieu entend nos cris. On sait qu'il entend notre détresse. Et on sait que l'injustice que l'on vit, le mal qu'on nous fait, ce n'est pas la preuve que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous abandonne jamais. Ses yeux sont sur nous. Et un peu plus tard, dans le psaume, David dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui sont dans l'abattement. » Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui sont dans l'abattement. Et je sais. J'avais mis peut-être que certains. Mais je sais que certains vivent l'injustice en ce moment. Je sais que certains vivent l'injustice au travail. Je sais que certains vivent l'injustice à la maison. Je sais que certains vivent l'injustice à l'école. Je sais que certains sont victimes de calomnies, que certains sont victimes de fausses rumeurs, que certains sont victimes de méchanceté, que certains sont insultés ou raillés pour leur foi. Et prenez courage, parce que Dieu entend nos prières. Et il entend nos cris. Et ses yeux sont sur vous. Et il ne vous a pas abandonné. Il vous entend et il vous soutient. Et quand on vit l'injustice, on doit se réfugier, chercher son refuge en Dieu. Comme David le dit dans le psaume. Notre Père céleste nous soutient et prend soin de nous. C'est ce que Pierre dira. Dans sa lettre, un peu plus tard, au chapitre 4, il dit « Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Il prend soin de nous. Pierre donne encore une raison qui nous aide à bénir nos ennemis alors qu'ils nous font du mal. Je l'ai dit, la justice fait partie de notre ADN, c'est la manière dont Dieu nous a fait, on a été câblés comme ça. Et la justice fait aussi partie des attributs de Dieu. Et cette justice doit nous encourager, nous, à faire le bien. C'est ce que disait Pierre au chapitre 1. Il disait, « Si vous invoquez comme père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. » La justice de Dieu doit nous encourager à nous conduire avec crainte, avec respect de Dieu et à marcher dans la justice. Notre Dieu est juste. Et on voit au verset 12, la face du Seigneur est contre ceux qui font du mal. Deuxième partie du verset. Parce qu'il est juste, Dieu punira le mal. Mais pas maintenant. Pas encore. Et un jour, tous ceux qui auront fait le mal auront à rendre des comptes devant Dieu. Mais cette justice appartient à Dieu. On doit s'appuyer sur cette assurance que Dieu fera justice. Et Jésus a supporté l'injustice en sachant que Dieu fera justice. Au chapitre 2, au verset 23, il dit « Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Ce qui a permis à Jésus de supporter l'injustice et la souffrance, ce qui lui a permis de bénir ceux qui lui faisaient du mal, c'est de savoir que c'est à Dieu qu'appartient la justice, c'est à Dieu qu'appartient la vengeance. C'est ce que Paul dira dans une de ses lettres, Romains. « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. » Dieu fera justice. Soyons-en sûrs que la méchanceté que nous voyons, la méchanceté que nous vivons ne restera pas impunie. Et si nous sommes sensibles à l'injustice, soyez-en sûrs, Dieu voit encore avec plus d'horreur le péché. Dieu voit notre injustice avec encore plus de dégoût que nous. Et l'injustice qui nous est faite est d'abord une injustice qui est faite contre lui. Dieu fera justice et en attendant, il nous demande de faire grâce en nous remettant à lui, en s'appuyant sur lui, en le priant, en s'attendant à lui, avec l'assurance qu'un jour, il fera justice. Deuxième partie, souffrir en faisant le bien, à partir du verset 13. Verset 13 dit « Qui donc pourra vous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien ?» Ça ressemble un peu à une question rhétorique, pas vrai? On a envie de répondre « Personne !» Qui c'est qui vous fera du mal si vous, vous faites du bien? Personne. C'est insensé de faire du mal à quelqu'un qui fait du bien. Imaginez-vous. Il fait très chaud. Vous êtes en sortie, vous marchez autour d'un lac, disons Brognard. Il fait très chaud, vraiment très chaud. Alors du coup, vous êtes prévoyant et vous avez prévu une bouteille d'eau en plus. On ne sait jamais. Au cas où, on se perd à Brognard. Peu de chance, mais il fait très chaud. Et là, vous croisez quelqu'un à la mine pâle, en train d'haleter. Il tient à peine debout, il est en train de tituber. Ça se voit qu'il n'est pas bien. Et quand il se rapproche, Vous voyez qu'il est tout sec. On dirait un pruneau presque. Ses lèvres sont gercées. Il a presque la langue pendue. Il a soif. Il fait très chaud. Et là, vous qui êtes prévoyant et qui avez prévu une bouteille en plus, vous lui proposez. Vous lui donnez la bouteille, la personne commence à boire et on voit que c'est comme s'il se réveillait. C'est comme s'il reprenait vie. Et il est vraiment content. Il a bu la demi-bouteille et il est vraiment bien. La personne boit, elle referme le bouchon. Et au lieu de vous dire merci, elle vous met un gros coup de poing dans la tête. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ça devrait pas se passer comme ça. On ne devrait pas faire du mal à ceux qui font le bien. Et pourtant. Et certains disent qu'un chrétien, s'il a la foi, s'il fait le bien, ne connaîtra pas l'injustice. Peut-être qu'ils sont arrêtés au verset 12. Verset 13. Mais au verset 14, il dit « D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. » Nous allons souffrir pour la justice, même en faisant ce qui est bien, même en obéissant à la parole de Dieu, même en étant juste, même en faisant du bien à ceux qui nous font du mal, nous allons souffrir pour la justice. Et suivre Jésus, c'est porter sa croix. Et Jésus disait, si le monde m'a rejeté, il vous rejetera. Et s'il vous hait, c'est parce qu'il m'a haï avant vous. Et Pierre, en milieu de tout ça, il nous appelle à être heureux. Verset 14. Être heureux de souffrir? Comment c'est possible? Et encore une fois, on entend les échos du sermon sur la montagne. Dans les Béatitudes, chapitre 5, Jésus disait « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux ceux qui sont insultés ou persécutés pour son nom. Pourquoi ? Parce que le royaume des cieux leur appartient. Car leur récompense sera grande dans les cieux. » Et nous aussi, dit Pierre à la fin du verset 9, nous aussi nous allons hériter une bénédiction. Et Pierre nous rappelle que si nous souffrons aujourd'hui, demain, nous serons dans la gloire. Mais concrètement, encore une fois, concrètement, qu'est-ce qui nous permet de supporter la souffrance? Qu'est-ce qui nous permet même d'être heureux au sein de l'injustice, comme Pierre nous appelle à l'être? En fait, une des premières choses que l'on voit, verset 14 et au début du verset 15, c'est que Pierre nous invite à échanger la crainte des hommes contre la crainte de Dieu. Et ici, il cite un bout de verset d'Ésaïe qui dit « Vous ne craindrez pas ce qu'il craint et vous ne le redouterez pas. » Là, je cite Ésaïe. Et le passage d'Ésaïe continue. Il dit « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. C'est lui que vous devez redouter. » Échanger la crainte des hommes contre la crainte de Dieu. Et Pierre sait de quoi il parle. Si Pierre dit ça avec autant d'assurance, c'est parce que lui-même a vécu ça. Quelques années auparavant, Pierre aura renié 3 fois le Christ. Jésus l'avait averti et lui avait dit « Non, aux autres peut-être, mais pas moi. » Et pourtant, par 3 fois, Pierre a renié le Christ. 3 fois, il a nié connaître Jésus. 3 fois, il a nié être son disciple. Enfin, soudain le temps, après la résurrection et après l'ascension de Jésus. On est dans le livre des Actes, acte 5. Les apôtres sont jetés en prison parce qu'ils proclament l'évangile. Et pendant la nuit, ils sont délivrés par un ange. L'ange les fait sortir et leur dit « Retournez, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Alors les disciples, ils font ça. Ils retournent au temple et continuent d'avancer, d'annoncer l'évangile. Et c'est là qu'ils sont encore pris. Ils sont amenés devant le grand prêtre et le Sanhédrin. C'est une sorte de tribunal religieux de l'époque. Et là-bas, on leur dit, mais nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là. Nous vous avions formellement défendu d'enseigner le nom de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Pierre répond cette phrase fameuse. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et qu'est-ce qui donne cette audace à Pierre tout d'un coup? Qu'est-ce qui a fait que celui qui avait renié trois fois le Christ, maintenant est prêt à tenir tête à l'instance religieuse la plus grande de son époque? C'est le Christ ressuscité. Il dit, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Pierre a échangé la crainte de Dieu contre la crainte des hommes contre la crainte de Dieu. Et quand nous avons peur des hommes, regardons à Christ ressuscité. Quand nous avons peur pour notre vie, regardons à celui qui a vaincu la mort. Fixons les yeux sur celui qui est plus grand que tout. Le Sanhédrin voulait les faire mourir et finalement, ils seront seulement battus. Ils sont battus par le Sanhédrin. Le texte dit quoi? Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Qu'est-ce qui nous permet d'être joyeux? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir du courage alors qu'on vit l'injustice? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir le courage d'annoncer l'Évangile alors qu'on nous fait du mal? Qu'est-ce qui nous donne le courage de faire du bien alors qu'on nous insulte? C'est la beauté et la puissance de l'Évangile. Et plus notre vision de Christ grandira, et plus notre crainte s'affaiblira. Et plus Jésus sera beau à nos yeux, et plus nous aurons le courage et nous serons prêts à parler de lui, même dans l'adversité. Notre foi dans le Christ ressuscité nous donne le courage et la joie au milieu de l'injustice. Et Pierre nous dit ici, l'Évangile, c'est l'antidote de la peur. La deuxième partie du verset 15 est souvent utilisée quand on parle d'apologétique. C'est un gros mot. Certains diront que je suis habitué. L'apologétique, c'est quoi? C'est simple, c'est la défense de la foi. En fait, on le voit dans le verset 15, « Soyez toujours prêts à présenter votre défense. » Et ce terme-là en grec, c'est « apologia ». C'est ça qui a donné « apologétique ». Pierre nous dit que nous devons être toujours prêts à défendre les raisons de notre espérance. Mais parfois, quand on parle d'apologétique, on donne un sens un peu technique à ce mot. On pense à une série d'arguments bien ficelés, on pense à la manière de répondre avec brio à tous les arguments qu'on peut entendre contre Dieu. Mais dans le contexte de notre passage, on voit que Pierre ne donne pas un sens technique à ce mot. Il n'y a pas besoin d'avoir lu 20 livres sur l'apologétique pour donner les raisons de notre espérance, pas besoin d'avoir fait des études de philosophie ou beaucoup de théologie. Ici, l'apologétique, ce n'est pas une discipline académique. Pierre nous dit que défendre notre foi, c'est commencer à parler de notre espérance. Et dans sa lettre, Pierre nous donne les raisons de notre espérance. Et écoutez les raisons de cette espérance et essayez de remarquer peut-être ce qui revient à chaque fois. Christ est mort pour nos péchés, pour nous amener à Dieu. Chapitre 3, Christ est ressuscité et Dieu lui a donné la gloire. Chapitre 1, Christ apparaîtra et nous serons dans la joie. Chapitre 1 et 4, qu'est-ce qui revient à chaque fois? Christ. Comme Christ a souffert, nous allons souffrir. Comme Christ est ressuscité pour la gloire, nous allons ressusciter pour la gloire. Et c'est ça notre espérance. Et c'est ça le message que nous proclamons. Notre espérance, c'est Christ ressuscité. Mais comment les autres demanderaient-ils les raisons de notre espérance? Comment quelqu'un peut nous demander de lui présenter ce qui fait notre espérance? Pierre en a déjà parlé. Au chapitre 2 et au début du chapitre 3, il a dit « Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa visite. » Et dans le passage que l'on a vu la semaine dernière, où Pierre parlait de soumission, dans le passage qui concernait des femmes qui ont des maris qui ne sont pas chrétiens, il dit que leur soumission était un moyen de gagner sans parole leurs maris qui n'obéissent pas à la parole par leur conduite chaste et respectueuse. Et c'est ça, nous dit Pierre, au verset 16, hein, la deuxième partie du verset dit « Ils voient votre bonne conduite. » Et quand les autres nous voient vivre, ça devrait susciter l'étonnement. Peut-être pas tout le temps. Peut-être que quand on est à la boulangerie, qu'on commande une baguette, ça se voit pas trop. Quoique, ça peut aussi se voir. Mais en fait, on est dans le contexte de l'injustice ici. Et dans le contexte de l'injustice, une bonne conduite étonne. C'est impossible aux yeux du monde de ne pas rendre mal pour mal ou insulte pour insulte. C'est impossible de ne pas se venger. C'est impossible de faire le bien à ceux qui nous font du mal. Mais de la même manière que les étoiles brillent plus fort quand la nuit est noire, notre conduite va briller plus forte au sein des ténèbres. Notre conduite va briller plus fort au sein de l'injustice. Et quand alors on peut nous demander « Pourquoi vous êtes prêts à souffrir ? Pourquoi tu réagis comme ça ? Moi, je ne pourrais pas. Pourquoi t'acceptes les insultes ? Pourquoi t'acceptes les calomnies et tu refuses de rendre le mal pour le mal ? Pourquoi t'as décidé de remplacer machin alors qu'il parle tout le temps dans ton dos et tu le sais ? Et toi, tu lui as donné son jour de congé ? Et on peut répondre. Nous pouvons souffrir pour Christ. Parce que Christ a souffert pour nous. Verset 18. Christ, lui juste pour des injustes, a souffert afin de nous amener à Dieu. C'est pas normal de ne pas se venger. C'est pas normal de ne pas répondre à la violence par la violence. C'est pas normal de se laisser insulter, de se laisser humilier, de se laisser calomnier. C'est une folie de faire du bien à ceux qui nous font du mal. C'est une folie de prier Dieu pour ses ennemis. Mais c'est la folie de la grâce. C'est la folie de la croix. C'est la même folie de l'évangile, dira Paul, où Christ, juste, est mort pour des injustes. Peut-être quand on a lu à partir du verset 19, votre cerveau a fumé. Peut-être que la fin de notre passage vous laisse un peu perplexe. Moi aussi. Et c'est presque ironique parce que Pierre, dans sa deuxième lettre, il parle de Paul. Et il dit, dans les lettres de Paul se trouvent des passages difficiles à comprendre. C'est celui qui dit qui est. Hein. Et il y a une phrase célèbre de Luther qui, en parlant de ce passage, dit « C'est un texte étrange et certainement un passage plus obscur qu'aucun autre passage du Nouveau Testament. Je ne sais toujours pas exactement ce que l'apôtre a voulu dire. » Alors si Luther a dit ça, Et en fait, avant Luther et depuis Luther, le passage continue à faire couler beaucoup d'encre, beaucoup d'encre. Et on ne va pas rentrer ce matin dans les détails d'interprétation. Et parmi les interprétations qui sont proposées, certaines sont convaincantes, certaines moyennement, et d'autres sont complètement rejetées. Par exemple, il y en a une que je veux rejeter directement avec vous, c'est celle qui dirait l'idée que le texte parle d'une descente aux enfers de Jésus. Et c'est vrai qu'on retrouve cette idée dans un document très vieux de l'Église qui s'appelle le symbole des apôtres, qui a été utilisé dans l'Église de tous les siècles. Mais il faut noter qu'il s'agit d'un ajout tardif et que même sur ce texte-là du symbole des apôtres, il y a beaucoup d'interprétations différentes. Donc on peut écarter cette solution qui ne trouve pas vraiment d'appui biblique convaincant. Mais alors, comment comprendre le passage ? Comment comprendre que Jésus est allé par son esprit prêcher aux esprits en prison ? Et parmi toutes les propositions, il y en a une que je préfère. Au début de la lettre, Pierre dit que les prophètes, chapitre 1, ont prophétisé avec l'esprit de Christ qui était en eux. Et dans sa deuxième lettre, Pierre parle de Noé en l'appelant le prédicateur de la justice. Et la position que je préfère, je vous la résume ici, c'est celle qui dit que Noé, pendant que Noé construisait l'arche, Christ prêchait en esprit par Noé à ses contemporains, aux esprits qui sont maintenant en prison. Ça, c'est l'interprétation qui colle, selon moi, le mieux au contexte. Si vous n'avez pas compris tout, c'est pas grave. Encore une fois, c'est vraiment avec beaucoup de prudence, beaucoup d'humilité que je vous propose cette interprétation parce que c'est un texte qui est vraiment compliqué. Mais quelle que soit la solution qu'on choisisse, quelle que soit la proposition qu'on retient, il y a certains points avec lesquels tout le monde est d'accord. Et c'est plutôt là-dessus que je voudrais prendre du temps pour finir. Et ce qui est clair dans le passage, c'est la manière dont Pierre établit un parallèle entre la situation de Noé et la situation de ses lecteurs. Et bien sûr, notre situation aujourd'hui, qui est assez proche de celle des lecteurs de Pierre. Il dit par exemple que comme Noé et sa famille, les lecteurs de Pierre étaient une minorité de chrétiens entourés par des personnes rebelles à Dieu. Comme l'était Noé, Pierre appelle ses lecteurs et nous aujourd'hui à vivre une vie de justice au milieu d'un monde tordu. Comme le faisait Noé à l'époque de la construction de l'arche, Pierre exhorte ses lecteurs et nous aujourd'hui à témoigner à ceux qui nous entourent. Et de la même manière que Noé a été pris pour fou quand il annonçait le jugement de Dieu et la nécessité de la repentance, nous aussi, nous allons passer pour fou en parlant du jugement de Dieu et de la nécessité de la repentance. Ne croyons pas que si le message de Noé était une folie, si le message de Jésus était une folie, si le message des apôtres était une folie, si chacun de ces témoins de l'évangile a été raillé, a été insulté, a été brimé, a été battu, a été mis à mort, ne croyons pas que nous sommes à l'abri de toutes ces choses. Et ne croyons pas que quelque chose a changé aujourd'hui. Comme au temps de Noé, Dieu patiente avant son jugement. Et ce temps de patience, c'est le temps de la grâce. Et ce temps de patience, c'est le temps d'annonce de l'évangile. Et comme Noé, au travers des eaux du déluge, nous avons été sauvés par la résurrection de Christ. C'est par la résurrection de Christ que nous sommes sauvés. Comme Noé, au temps de la patience, nous prêchons à des humains en rébellion contre Dieu. Et dans ce temps de la grâce, les justes souffrent. Les justes souffrent, mais ils s'en remettent à Dieu, qui prend soin d'eux et qui fera justice. Et le texte finit avec l'idée que Jésus règne, qu'il est élevé au-dessus de tout, qu'il est à la droite de Dieu. Et dans son règne, il prend soin de nous. Il veille sur nous, même quand nous vivons l'injustice. Et bientôt, nous partagerons son règne. Et bientôt, nous serons pour toujours avec lui dans la gloire. Je finis avec les mots de Pierre dans le 5e chapitre. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen.